Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Michel de Rivoire, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour
Sébastien,
Aline.
Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Nous allons quitter
bonjour à tous nos auditeurs et
ben
auditrices.
Oui, bonjour aux auditeurs. Nous allons quitter peut-être le monde de la culture pour partir sur celui de la nature avec l'évocation dans cette émission et peut-être plusieurs émissions du patrimoine végétal en Pays Toulousain.
Patrimoine naturel même, au plus large, parce que la culture n'est jamais loin, tu
Elle
sais, il ne faut pas l'écarter dans toutes ses formes.
C'est la même convention qui régit patrimoine culturel et patrimoine naturel pour l'UNESCO. Voilà. Convention de 72 sur le patrimoine mondial.
Alors Aline, nous
Toujours
allons...
très technique, mais merci Sébastien,
oui.
Cette introduction
fleurie.
Fleurie.
Voilà, mais on va partir effectivement dans le végétal,
ouais.
À l'état naturel, ou à l'état organisé par la main de l'homme.
C'est ça. Donc vous faites allusion à tout ce qui est parc et jardin, lorsque l'homme intervient, et puis tout ce qui est paysage finalement, ce que nos yeux, notre regard portent sur... ce qui nous environne, dès lors qu'on sort d'une rue ou j'allais dire, de la maison où on habite, ou de l'appartement. Donc, c'est un besoin, la nature. Hein. C'est un besoin de tout temps. Et dans les temps jadis, pour rester toulousain, la campagne, donc, qui était l'autre nom, le nom traditionnel de la nature, venait jusqu'au mur d'enceinte, c'est-à-dire au boulevard,
boulevard
actuel.
Oui.
Et c'est vraiment le 19e qui a vu la bascule.
Donc, elle était dans ce qu'on appelle, et que vous nous avez raconté, le gardiage.
Oui, le gardiage était essentiellement campagne de Toulouse. Voilà.
Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir aux alentours de Toulouse des éléments naturels importants qui nous viennent de très loin?
J'espère qu'on prendra le temps, si on enregistre ensemble d'autres émissions, ce que j'espère. Oui, il y a vraiment des éléments qui sont collectifs, c'est-à-dire où tout le monde peut aller, qui sont des forêts. Et ce qu'on appelle aujourd'hui, alors n'est-ce pas Sébastien, d'un terme technocratique, des bases de loisirs ou des espaces verts. Bon, c'est, de toute façon, c'est le terme utilisé aujourd'hui. Entre nous, on peut se le dire, c'est l'espace résiduel de cette campagne,
ben oui.
de cette
nature,
et qui figure sur des plans d'urbanisme ou des plans Google, ce que vous voudrez. Voilà. Eh bien, on peut les citer, puisqu'on aura certainement l'occasion un jour de s'y intéresser, j'espère, et d'en donner l'origine, la contenance et la présentation. Alors, le plus connu des Toulousains, c'est la forêt de Boucone.
Ah oui.
On veut respirer, on est rue du Languedoc ou rue Alsace, et bien... On prend quoi d'ailleurs? Son vélo, sa voiture? Qu'est-ce qu'on peut... Comment on peut aller à la forêt de Boucone depuis le
En vélo, je ne sais pas, ça doit être possible.
Ah, oui.
Mais...
Alors on peut y aller à pied par le GR 653, le sentier de grande randonnée qui passe.
Le chemin de Saint-Jacques.
Voilà, qui est le chemin de Saint-Jacques.
Voilà, mais tu prends ta tente hein, sur ton sac à dos.
Tu
ne
prends pas ta tente parce que tu es de l'hébergement, mais tu peux rentrer en forêt de Boucone.
Voilà, mais ça voulait dire qu'il fallait passer plusieurs jours peut-être pour y aller en vélo, non? Ou à pied.
Pour Toulouse, l'île Jourdain, deux jours.
On y arrive. Ah, tout de même.
Et on passe devant Aéroscopia.
Des
zones très urbanisées.
Voilà.
Des zones très urbanisées dont la problématique est justement de retrouver ces lieux un peu de nature, donc en général proches des ruisseaux, dans lesquels on peut encore faire passer un sentier randonnée.
Pour utiliser un terme bureaucratique encore.
Pardon.
Ah, les ripisylves.
Il faut expliquer ce qu'est une ripisylve. Parce que c'est un terme.
On fera
quand
une
même...
émission sur les ripisylves.
Ben oui, c'est en cherchant
des lieux au cours d'eau.
Mais oui, c'est les bords de rivière, si vous voulez, ou de canaux, ce que vous voudrez. Mais alors, tout dépend de l'échelle, parce que, écoute. Si tu t'intéresses aux fleurs, eh ben tu vas regarder les fleurs de bord de rivière, qui ne sont pas les mêmes que celles des champs. Si tu t'intéresses aux arbres, on a, que ce soit des canaux, puisqu'ils ont été plantés, hein, on retrouve la division végétale naturelle, la distinction. Eh bien, les arbres de bord de rivière, est-ce qu'ils sont de tout temps? Est-ce qu'ils ont toujours existé? Et c'est ça que j'aimerais, dans nos conversations, on regarde un peu plus précisément en s'appuyant sur les sources, parce que les sources existent.
Le canal du Midi.
Oui. Les platanes
n'avaient à l'origine, n'avaient pas d'arbres.
Non, c'était
ils avaient
fait des
riquets
et ses successeurs ont testé les ormeaux. Et je crois que c'était compliqué ou trop cher. et surtout mauvais pour les riz. Les racines étaient mauvaises pour les. Donc ils ont essayé. Les platanes, c'est fin 18e, début 19e siècle, ça c'est généralisé. Mais si vous regardez des rivières affluents de la Garonne, ou même de la Garonne, bien sûr, on a essentiellement des peupliers, soit des trembles, soit les plus connus qui sont les carolins, on va dire leur nom courant, ou des peupliers d'Italie, ou bien des frênes, qui aiment l'eau, qui aiment les terres humides. Et ça, ça fait partie du décor. C'est-à-dire que quand vous regardez, quand vous vous élevez un peu, ou même si vous prenez l'avion, ou si vous jouez avec un drone, et bien, c'est les premiers végétaux que vous apercevez, un peu en hauteur. Voilà. Donc c'est très intéressant de s'intéresser aussi au réseau hydrographique, et je pense... sans faire d'histoire géo, j'espère qu'on aura l'occasion d'explorer un peu toutes ces... Donc il y a différentes échelles, c'est ça que je voulais vous dire. Après, la mémoire du patrimoine naturel toulousain, elle s'appuie sur des récits, j'allais dire de la littérature, qui est assez abondante, dès lors qu'on s'y intéresse, on peut aller dans les bibliothèques spécialisées. Elle s'appuie sur un très riche patrimoine universitaire, et son émanation la plus connue, la plus accessible, c'est le Muséum d'histoire naturelle qui est sur les allées Jules Guesde. Bon. Et puis, vous avez une iconographie, essentiellement des peintres de paysages ou de nature. Il ne faut pas oublier les animaux dans notre approche, bien sûr, parce qu'il faut savoir, il faut se rappeler, il faut avoir l'esprit que jusqu'au début du XXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, dans Toulouse, on ramassait le crottin des chevaux, hein, place du Capitole. Voilà, aujourd'hui, on ramasse beaucoup d'autres choses, mais pas mais plus ça. Bon,
les omnibus, c'était à cheval.
Oui. Donc, cette ce que vous voudrez, connivence, corrélation, coopération, en tout cas, hommes-animaux, dont le cheval, le bœuf, enfin tout ça, le mulet, l'âne, faisait partie, était évident, je dirais, dans ce patrimoine naturel, il a sa place évidente. Elle a sa place évidente. Alors que
tout ce qui est le genre d'idée... un environnement quand même marqué par la présence de ce patrimoine naturel. Même si aujourd'hui, on a en tête la forêt de Boucone, mais...
Voilà, on l'a cité celle-là parce qu'on y reviendra plus tard. Mais vous avez tout à fait raison. La Garonne, qui est la grande artère jusqu'au temps récent, au temps contemporain, elle est bordée d'arbres. Elle est, quand on regarde le ramier, les photos, les peintures, on ne voit pas du tout d'immeubles. Donc, dans Toulouse, c'est l'eau d'abord, parce que c'est vital, vous me comprenez, et tout ce que permet l'eau, c'est-à-dire d'actionner les pales des moulins. Enfin,
la consommation.
C'est vraiment... Oui. Et je pense qu'en citant ces différents éléments, on fait un peu le cadre de ces émissions qu'on pourrait voir ensemble.
Oui. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, et probablement lorsque la ville a grandi, qu'il y a eu une urbanisation plus importante, la tentation a certainement été de faire rentrer la nature dans la ville.
Voilà, c'est-à-dire que les préoccupations ont changé de nature. Et faire rentrer la nature dans la ville, c'est intervenu, c'est une troisième phase. La première, c'était de s'en prémunir, les inondations, la pauvreté de la plupart de ceux qui travaillaient la terre, qui ne s'en sortaient pas. Bon, les maraîchers qui avaient du mal aussi à subvenir à leurs besoins. Donc, si vous voulez, c'est toute la politique sociale du XXe siècle qui a consisté à dominer, à dompter la nature, finalement. Et peut-être même à la faire reculer. La deuxième phase, elle est assez brève. C'est les années, je dirais, de Trente Glorieuses, si vous voulez, hein, les années 70-80, enfin, après la guerre et jusqu'aux années 80-90, où la nature, oui, c'est l'environnement, finalement, on aménage des bases de loisirs, on aménage ce qu'on appelait des voies vertes, bon, mais c'est un équilibre. Et puis, comme vous le dites, Aline, comme vous le supposez, c'est au XXIe siècle, donc depuis 25 ans, que vraiment il faut faire rentrer la nature. C'est une reconquête, une renaturation. Et chez nous, à Toulouse, l'île du Ramier est un exemple.
Très bel exemple.
le plus mis en valeur, enfin qui parle au plus grand monde, j'imagine. Oui. Mais chaque commune de la métropole ou de l'agglomération, en tout cas de l'aire urbaine, cherche à faire rentrer la nature par tous les moyens, y compris des moyens artificiels.
Et donc, il y a quand même aussi l'idée, je pense au parc dont on a quelques exemples à Toulouse, l'idée de faire entrer la nature, mais aussi d'avoir un côté de plaisance dans un environnement qui est plutôt minéral.
Oui, minéral ou numérique, oui. Si on reste oui. devant son écran. Oui, c'est, comme on le disait à l'instant, c'est les années 80-90 où beaucoup de maires de communes autour de Toulouse, suburbaines, pas très jolies comme appellation, ont sélectionné des espaces verts plus ou moins importants. Et je pense à la base de loisirs, par exemple, la plus célèbre de Aidez-moi.
Tu penses à la Ramée, Michel ?
La Ramée, la base de loisirs de la Ramée. Il n'y en a qu'une à ce nom-là. Oui, on peut y accéder soit par le Mirail, si on vient du centre-ville, par des cheminements très arborés.
Ah, même à pied, par des cheminements qui permettent de découvrir des parcs très intéressants.
Avec des sujets, des arbres
oui.
magnifiques. On peut aussi y aller en suivant la rivière du Touche, je pense, puisqu'on accède à Tournefeuille. Et voilà. Et ça, ce sont vraiment ça fait partie du patrimoine commun de la grande ville de Toulouse.
Oui, et puis on a le jardin du château de Rennerie qui a été remarquablement...
Alors là, on rentre dans une catégorie d'espaces verts, si vous voulez, visitables, qui sont les parcs et jardins de la ville. J'espère aussi qu'on pourra en aborder plusieurs. Mais ce sont des lieux où la main de l'homme est prépondérante.
A façonné la nature.
Alors... soit en laissant la nature. En laissant s'exprimer la nature, ça, on donnera des exemples, soit au contraire en la contraignant.
Avec un souci didactique quand même, parce qu'il y a des choix de plantes, rien n'est mis au hasard. Le jardin de Maourine.
Oui, ce qui est une extension, n'est-ce pas, ou en tout cas une succursale, je ne sais pas quel est le terme exact, du muséum.
Eh bien, nous allons le voir dans les prochaines émissions, Michel. Voilà. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.